Cité Culture, l'émission culturelle de Radio Cité proposée par Jacques Magnol.
Aujourd'hui, nous allons parler d'horlogerie avec Estelle Fallet, qui est conservatrice et qui s'occupe de l'exposition des frères des montres des collections Proctor, qui viennent d'ouvrir actuellement au musée d'art et d'histoire. Son exposition a lieu au musée d'art et d'histoire. Et ce sont 81 pièces de la collection qui sont en regard avec 30 pièces du musée de l'horlogerie. Et c'est un ensemble qui illustre la production horlogère du 16e au 20e siècle. La fonction première, c'est bien sûr le calcul du temps, mais celle de la montre est aussi un bijou, et parfois c'est la fonction bijou qui prime. Alors, le thème de l'heure est très riche. Estelle Fallet, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette exposition a lieu au musée d'art et d'histoire, car le musée d'horlogerie est actuellement fermé.
Exactement. Il est fermé donc depuis 2002. Il restera fermé malheureusement jusqu'en 2009. Et pour conserver une certaine lisibilité et visibilité à notre institution, nous avons la chance de bénéficier d'espace au sein de notre maison mère, le musée d'art et d'histoire de Genève, qui accueille nos manifestations temporaires.
Alors le thème de l'heure, il est très riche et très interdisciplinaire. On peut le rattacher à l'histoire, les mathématiques, la grammaire, la technologie, géographie, art plastique, musique.
Tout à fait. C'est un art plus disciplinaire. On touche, disons, à diverses matières grâce à l'étude de l'art de la mesure du temps.
Alors nous allons surtout nous attacher aujourd'hui à parler de la partie des arts décoratifs, donc pour la décoration extérieure, et de l'horlogerie pour les mécanismes et le développement.
Voilà, grâce à l'exposition Jewels of Time, collection du Munson Art Institute de Utica, qui est notre hôte, nous avons la chance de présenter un panorama de la montre ornementée depuis le XVIe siècle, vous l'avez dit, jusqu'au début du XXe siècle.
Thank you. C'était un extrait de l'andante de la symphonie numéro 101 de Joseph Haydn. C'est une symphonie qui fut écrite durant son deuxième voyage à Londres le 3 mars 1794 et c'est le balancement régulier qui lui procura le sous-titre de The Clock, l'horloge. Et c'était choisi par Estelle Fallet. Vous avez un clin d'œil qui est préférable à celui des sonneries de portable qui sont une autre manière de marquer le temps.
Exactement, nous y avons fait allusion avec cet affichage digital qui rappelle effectivement que le téléphone portable de nos jours est aussi un véhicule de mesure du temps et qu'on consulte ce garde-temps-là au même titre qu'une montre traditionnelle.
Auparavant, on consultait le temps d'une autre manière à Genève. Disons que, est-ce qu'on peut dater à peu près l'importance de cette ponctualité au moment où les horloges ont été installées, je crois que c'est vers 1560, à la place Belair, à Saint-Gervais, et en même temps à la tour du Molard.
Voilà. Le temps public, disons, précède effectivement l'appropriation par les hommes et les femmes du temps domestique et du temps à porter sur soi, d'autant plus. Et l'horloge publique joue un grand rôle à partir du Moyen-Âge dans les cités en voie de développement. C'est à l'horloge publique qu'on se réfère pour connaître l'heure qui passe, le temps qui passe. Auparavant, cette horloge monumentale se trouvait de préférence dans les monastères, où les moines réglaient la sonnerie de leur cloche pour appeler à la prière sur une horloge monumentale. L'horloge ensuite devient, installée sur le beffroi, un signe de prestige pour nombre de cités. Et de là, l'évolution va se poursuivre dans le sens de la miniaturisation, dans le sens où une horloge monumentale, horloge de ville, deviendra pendule domestique, puis de la pendule ou horloge de table, on passera à l'étape suivante, la montre à portée, la montre portative, personnalisée.
Alors à cette époque, est-ce qu'il y avait naturellement une différence de conception du temps entre les personnes qui vivaient en zone urbaine, qui pouvaient voir ces beffrois, et puis peut-être la campagne où on s'occupait plutôt du soleil?
Oui, exactement. Il y a une différence d'appréhension de cet écoulement du temps. Un cadran solaire donne une temporalité particulière. Il suffit que le soleil se cache ou soit caché par les nuages pour que le dérèglement soit immédiat. D'autre part, je crois qu'on parle immédiatement de précision, effectivement, puisque les garde-temps mécaniques, la mesure du temps mécanique apporte une certaine précision dans l'écoulement du temps. Alors il faut peut-être aussi rappeler immédiatement que les premières horloges ne sont pourvues que d'une seule aiguille, autant les pendules que les premières montres portatives, et qu'elles donnent l'écoulement de l'heure et de la demi-heure. La minute sera introduite plus tard, au XVIIe siècle, la seconde vient immédiatement ensuite.
Et ces premières montres n'avaient donc pas de protection, c'était simplement une aiguille posée sur le cadran.
Alors effectivement, dans l'exposition que nous présentons, nous avons la chance d'accueillir quelques pièces du XVIe siècle, de la seconde partie du XVIe siècle, qui sont de grosses pièces en laiton, ajourées souvent, parce qu'elles sont déjà pourvues d'une sonnerie pour marquer le tintement des heures et des demi. Mais ces montres sont dépourvues effectivement de glace, de protection sur leur cadran. Elles sont recouvertes par un cadran, par un couvercle ajouré.
Donc c'était des montres qui n'étaient pas portées, c'était des montres qui restaient dans un bureau ou...
Alors ces premières montres qui sont d'un certain volume sont souvent portées au col, donc suspendues à un cordon autour du cou, et puis sont effectivement posées sur un meuble.
Alors pour cette position de Genève dans l'horlogerie, il y a quelque temps nous avions invité Max Angamar pour nous parler, qui avait donc écrit ce livre sur l'ordre du temps et la ponctualité, attribuant à Calvin donc un sentiment religieux de rendre chaque citoyen comptable du temps. Est-ce que c'est véritablement le démarrage de l'horlogerie, si on peut dire, à Genève?
Alors c'est vrai que on voit une coïncidence entre l'essor de l'horlogerie à Genève et puis l'apport du savoir-faire des réfugiés huguenots. qui se sont établis en ville de Genève. Quant à savoir si l'éthique protestante est effectivement une éthique qui pousse à la maîtrise du temps et à son économie et sa mise en valeur, on va dire, à travers l'horlogerie, c'est une thèse qui a été défendue depuis le début du XXe siècle par notamment Max Weber, mais qui demanderait sans doute une révision aujourd'hui.
Oui, puisque à l'époque de la Renaissance, le temps, enfin disons, nous étions déjà soumis aux règles du négoce et du business, c'est voilà. Plutôt ce qui dictait la...
Alors effectivement, je crois que la différence, c'est que dès le moment où les villes deviennent des lieux de foire et d'échanges commerciaux, il y a une nécessité à régler les emplois du temps et à coordonner également les activités commerciales, ce qui fait que la demande en garde de temps devient importante.
Alors, on ne peut pas reprendre toutes les philosophies qui se rapportent au temps, depuis Bossuet au milieu du XVIIe qui disait que le temps n'est rien du tout parce qu'il n'a ni forme ni substance. Il y avait également Merleau-Ponty, pour plus proche de nous, qui disait que la notion de temps n'est pas un objet de notre savoir mais une dimension de notre être. Est-ce qu'à la même époque où nous avons eu, au moment où l'horlogerie donc a subi un essor, enfin a connu un essor, pardon, est-ce qu'il y a eu également des philosophes genevois, est-ce qu'il y a eu un tourbillon intellectuel à ce sujet?
Alors, c'est un domaine que je n'ai pas étudié, j'ai du mal à vous répondre, mais ça me laisse penser, vos propos laissent penser en tout cas qu'il y a un champ de recherche tout à fait intéressant à mener sur ce sujet-là. Sans doute que les grands auteurs, les théologiens, notamment protestants, ont quelque chose à dire sur ce temps, puisque chacun s'est exprimé depuis le fameux texte de saint Augustin qui parle du temps. Qu'est-ce que le temps? Je ne sais pas ce que c'est. Dès que le moment où j'en parle, je ne sais plus ce que c'est, etc. C'est vrai qu'il y a sans doute une grande portion de littérature qui se rapporterait ou qui enrichirait la réflexion. Ça nous amène à cette première phrase que vous avez prononcée en soulignant tout le caractère pluridisciplinaire de l'art de la mesure du temps, toutes les ouvertures que ça ouvre sur d'autres disciplines.
Alors pour reparler de la position de Genève, donc les réfugiés huguenots ont apporté leur connaissance. Quelle était la position approximative de Genève non pas sur le marché de l'horlogerie, mais sur l'horizon au niveau régional, parce qu'il y avait également tous ces producteurs qui étaient dans le Jura, aussi bien suisses que français.
Alors Genève occupe un peu une place d'avant-gardiste, on va dire, puisqu'elle accueille effectivement nombre d'artisans qui possèdent des savoir-faire déjà très développés et dont elle profite au sein de sa fabrique, l'organisation de sa fabrique. Je rappelle juste que la fabrique désigne à Genève spécialement les métiers qui ont trait à l'horlogerie, à la bijouterie également, à la joaillerie et puis à l'émaillerie. Tout est compris dans une organisation d'ateliers liés entre eux par des liens d'affaires et de savoir-faire. Alors cette fabrique genevoise exporte elle-même son savoir-faire vers les montagnes, notamment l'arc jurassien, la vallée du Joux, les montagnes neuchâteloises. On trouve dans les montagnes neuchâteloises nombre de maîtres horlogers d'origine genevoise qui viennent s'établir pour former à leur tour des apprentis et développer, diffuser cet art de la mesure du temps. Inversement, on voit beaucoup d'horlogers issus d'autres régions de l'arc jurassien qui viennent à Genève pour se former aux techniques utilisées dans la cité de Calvin.
Alors la collection que vous présentez actuellement au musée d'art et d'histoire, et c'est la collection de deux frères, donc au début du XXe siècle, qui sont les frères Proctor, qui sont des États-Unis. Oui. Et ces deux frères ont collectionné de manière indépendante, c'est-à-dire chacun pour soi.
Exactement.
Est-ce qu'il y avait une certaine compétition entre les deux, ou est-ce qu'ils avaient des objectifs différents?
A priori, les objectifs étaient identiques dans le sens où ils pensaient chacun constituer une collection représentative des arts de la mesure du temps du XVIe siècle, donc des premières montres portatives jusqu'au début du XXe siècle. Il faut dire donc que ces collections, on va dire, ont été réunies au tournant du XIXe, début XXe siècle, que les deux frères étant décédés dans le premier quart du XXe siècle, la collection s'arrête, du coup elle n'est plus alimentée. Ce sont en fait deux demi-frères dont la fortune familiale provient de l'industrie, de la banque, de l'hôtellerie notamment. Ils avaient plusieurs hôtels assez luxueux dans les environs de New York. Ils ont bénéficié de cette fortune pour la faire fructifier à travers des collections d'art. Il faut souligner qu'il n'était pas seulement axé sur cette collecte d'objets horlogers, mais qu'il s'intéressait à tout ce qui était art appliqué, à travers la verrerie, les œuvres d'art, les tableaux, les toiles de maître, etc. Et qu'ils ont développé cette collection d'horlogerie par intérêt, parce qu'ils avaient des intérêts polyvalents ou multiples.
Et dans les pièces que vous avez choisies, il y a beaucoup de pièces donc justement qui renforcent la position de Genève. Est-ce que c'est dans le but de nous montrer, de plaire un petit peu plus aux Genevois, ou est-ce que c'était véritablement un hasard
C'est le hasard, c'est-à-dire c'est le choix des commissaires d'exposition américains qui a abouti à une sélection de 81 montres. Il faut préciser que la collection entière compte plus de 300 garde-temps, des montres et des pendules, et parmi ces 300 pièces, les commissaires ont choisi 81 pièces, 81 montres d'origine européenne, dont plusieurs pièces effectivement genevoises. Je crois que ce choix est représentatif de la place de Genève au niveau de l'importance de ce centre horloger à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est vrai que Genève devient très connue pour sa production horlogère, notamment celle qui fait recours à la décoration d'émail, la peinture sur émail, l'émaillage des pièces de prestige.
Alors, ces pièces, c'est une collection américaine, enfin, c'est une collection états-unienne, comme on dit aujourd'hui. Quand on prend, disons, l'époque où les deux collectionneurs les ont réunis, et que l'on connaît les États-Unis comme à cette époque en plein essor industriel, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pièces provenant des États-Unis et qu'en réalité elles viennent de ce qu'ils appellent maintenant la vieille Europe?
Oui. Alors, je pense qu'il y a simplement un décalage dans le temps. Effectivement, l'essor de l'horlogerie américaine date du milieu du 19e siècle, avec des usines ou des fabriques qui produisent en grande série déjà. C'est tout le problème de cette concurrence américaine qui a fait très peur aux horlogers suisses à partir de l'exposition universelle de Philadelphie, qui fait découvrir aux Européens que les Américains sont déjà très avancés en matière de machinisme. Et donc, je pense que là, la production américaine typé pour être de série ou à vocation, disons, peut-être plus populaire, n'intéressait pas forcément les frères Proctor, qui, eux, s'intéressaient plutôt à la montre un peu de luxe, la montre bijoux, la montre joaillerie.
Donc sur la montre d'art, la montre de joaillerie, la production n'était pas réellement intéressante aux États-Unis à cette époque.
Aux États-Unis, exactement. Voilà, elle est restée, on va dire, production commune ou plus populaire, on va dire.
Et disons, vous avez remonté directement pratiquement à l'invention de la montre, puisqu'on voit aussi pratiquement des cadrans solaires portables dans cette exposition.
Oui. C'est un clin d'œil effectivement à ce passage entre l'heure qui se lit sur un garde-temps portatif personnel et puis la transition avec ce petit cadran solaire et boussole, muni d'une boussole qui était transportée aussi avant l'invention. On ne peut pas parler vraiment d'invention de la montre, c'est plutôt une succession, simplement l'aboutissement d'une transformation de l'horloge de table qui se miniaturise pour devenir une montre.
Alors le passage de la montre, enfin de l'horloge, pardon, de Saint-Gervais à l'horloge qui fasse partie du mobilier, le passage est fait assez rapidement.
Oui, c'est l'espace de quelques dizaines d'années, on va dire ça un peu grossièrement. C'est vrai que l'exposition le montre au niveau de la montre, mais les rapports entre aspect décoratif et aspect technique, mécanique, sont très très liés et c'est sont très très forts, on va dire. L'un influence l'autre, l'un des domaines influençant l'autre, et que sitôt qu'une invention est faite au niveau mécanique, je pense par exemple, si on parle horloge monumentale et horloge domestique, à l'invention du pendule en 1675 par le Hollandais Huygens, cette introduction provoque la généralisation, la multiplication des horloges domestiques. Donc, là, au niveau de la montre, on trouve le même genre d'innovation qui vont permettre la miniaturisation et puis la transformation au fil du temps de cet objet qui conserve le temps.
Et dès cette époque, est-ce que c'était un objet, si on peut l'appeler ainsi, qui était réservé uniquement aux classes les plus riches, ou est-ce qu'il y avait également une production de montres relativement imprécises et qui aurait été comme c'est les montres actuelles maintenant?
Actuelles. Alors il faut effectivement rappeler que les premières montres sont des objets de prestige, sont destinées aux classes supérieures, aux élites, aux maisons royales avant tout, et que du fait de leurs matériaux, l'or souvent, l'argent, ou voire le laiton, leur enrichissement par des pierreries, par toutes sortes de techniques qui sont une plus-value à apporter à l'objet même, ce sont des pièces de luxe, on va dire, des objets, des bijoux de luxe.
C'est Clocks and Clouds, une pièce de 1973 de Ligeti. C'est une pièce pour 12 voix de femmes et orchestre. Et le titre est emprunté à une étude théorique scientifique de Karl Popper. Mais dans la pièce de Ligeti, les horloges et les nuages ne sont que des associations poétiques, a dit le compositeur. Nous sommes toujours avec Estelle Fallet pour parler de la collection Proctor, Jewels of Times, les joyaux de la mesure du temps qui sont présentés actuellement au Musée d'Art et d'Histoire. Et nous le redisons, pendant la fermeture du Musée d'Horlogerie qui avait subi un vol il y a quelque temps. Mm-hmm. Et maintenant vous commencez.
Vol que nous travaillons à effacer de la mémoire. Puisque nous reconstituons patiemment la collection en remplaçant par des achats ou en bénéficiant de dons qui nous permettent de compléter cette collection tronquée par des objets similaires, identiques parfois ou très proches dans leur forme et dans leur intérêt.
Donc ils sont des pièces qui sont encore que l'on trouve relativement facilement, c'est un marché vivant.
Voilà, exactement, et d'où l'intérêt de cette présentation en double de Jewels of Time, qui est une collection américaine que nous avons doublée de pièces issues du musée de l'horlogerie et de l'émaillerie de Genève pour montrer justement à quel point deux collections, l'une d'origine privée et l'autre d'origine public ou à vocation publique, se rencontrent sur des points cruciaux de l'histoire de la mesure du temps. On trouve des pièces très similaires qui ne sont pas en fait ces coïncidences ne sont pas le fruit total du hasard, mais répondent en fait à l'image que donne l'histoire de la mesure du temps. Donc on s'arrête avec des pièces identiques sur des incontournables, autant au point de vue mécanique, technique qu'esthétique. Toute collection va produire ou montrer des objets similaires à un certain endroit.
Alors, il faut quand même préciser qu'une exposition de montres, ce ne sont pas simplement des objets ronds avec un cadran analogique et des aiguilles. Oui. Vous avez énormément d'objets qui sont des véritables œuvres d'art. Enfin, énormément, mm-hmm. pardon. Il y a beaucoup de pièces. Mm-hmm. Je pense à la montre en forme de mouton,
oui.
Une autre en forme de fruit, une autre en forme de viol de gambe. Là, on rentre carrément dans le bijou, puisque l'heure n'est pas visible à première vue.
Oui. Tout à fait. Là, c'est une production particulière, ces montres de forme se développent ou sont prisées, disons, depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à 1910, avec des étapes de plus ou moins grande vogue. Mais ce sont des objets qui sont prisés en tant que bijoux, joyaux, effectivement, que l'on porte sur soi et que l'on aime montrer comme objet précieux.
Alors parlons des décors qui semblent, dont l'inspiration semble provenir toujours des mêmes sources, c'est-à-dire au départ une inspiration religieuse, mm-hmm. avec des images de l'histoire sainte.
Sainte, oui, tout à fait.
Ensuite aussi des images représentant des corps de métier.
Oui, oui, bien sûr, la mythologie inspire aussi beaucoup les artistes qui travaillent souvent sur des répertoires communs, c'est-à-dire des registres ou des albums fournis par des ornemanistes qui travaillent tant pour le mobilier, par exemple, les arts du mobilier, les arts de la décoration immobilier de meubles, d'immeubles également, de décors intérieurs, et puis qui travaillent et qui offrent des sujets d'ornementation aux artisans de la fabrique.
Alors, il n'y en a pas dans cette collection, mais la production également de décorations érotiques sont souvent présentées à Genève. Je pense au moment des ventes chez Patrizzi et autres, où l'on voit de grandes collections.
Oui, effectivement, ça a été un sujet collectionné, disons, régulièrement. On en trouve relativement peu, elles sont peu courantes. J'ai toujours souri en pensant que dans la collection du musée de l'horlogerie et de l'émaillerie, il n'y avait aucune pièce à caractère érotique, en imaginant que au cœur de la cité de Calvin, avec une institution publique, c'était tout à fait prohibé et inimaginable d'accueillir une pièce de ce type. Mais effectivement, là, dans la collection présentée, vous ne trouverez rien de sulfureux.
Non, on aura dans l'autre, on les voit quand les ventes aux enchères se déroulent à Genève. C'est un autre domaine.
Un autre sujet, voilà.
Alors, le sujet, vous parliez de ceux qui étaient créateurs de, d'ornements, des émaillés, c'était une spécialité genevoise.
Alors, l'émail de Genève a une particularité, c'est-à-dire que l'émail sous fondant est une spécificité innovée ou créée à Genève, développée à Genève, et en général, la peinture sur émail fait le renom de la cité genevoise. On peut imaginer que les premières montres primitives étaient très peu ornementées. Elles étaient l'œuvre souvent des graveurs, des ciseleurs. Et puis les orfèvres se sont intéressés à l'objet horloger, au garde-temps. Ils ont créé des boîtiers en or ou en métal repoussé. Ils ont fait là tout leur développé leur savoir-faire d'orfèvre. Nous avons aussi sous les yeux des montres décorées d'or de couleur. C'est vrai qu'on connaît bien l'or jaune de nos jours, l'or rose, l'or blanc. Et puis il faut savoir qu'il existe aussi de l'or gris, de l'or vert, et que les artistes sont ingénieux à développer des combinaisons pour avoir des décors de couleur. Et puis les graveurs ont développé toutes sortes de techniques de gravure pour ornementer les boîtiers au fur et à mesure de l'évolution. Alors la technique, disons, du garde-temps, vous avez sans doute observé que les premières montres étaient très grosses, très rondes, et qu'elles deviennent de plus en plus plates. Au cours du 19e siècle, la montre ultra plate est prisée, et c'est un objet assez séduisant, on va dire, et qui attire l'attention.
Mais c'est une mode qui continue, puisque même la plus grande marque de montres actuelle en Suisse produit des montres ultra plates.
Bien sûr, c'est une catégorie de montres qui reste très, très prisée. C'est une prouesse technique aussi, souvent, qui fait que ça donne du prestige à une pièce.
Et à qui revenait l'honneur quand, par exemple, vous aviez un producteur d'émail qui était particulièrement renommé? Oui. Vous aviez également le mécanisme horloger. Est-ce que c'était le fabricant qui primait?
Alors, effectivement, la question de la signature est délicate en matière d'horlogerie. Souvent, les mouvements sont signés par l'horloger qui a construit le mécanisme du garde-temps. Par contre, en faisant allusion aux travaux des frères Huot, par exemple, émailleurs célèbres établis à Genève, leurs décors émaillés sont signés par leur nom. Et on peut différencier tel décor signé par l'aîné ou par le puîné. Ça nous permet de connaître un peu mieux leur production, qui paraît être d'ailleurs assez considérable.
Un petit peu dans le même esprit que dans les voitures de sport, vous avez une mécanique connue mais carrossée par un designer célèbre.
Par exemple, voilà, exactement. C'est tout l'intérêt d'étudier la fabrique, par exemple, sur le sol genevois, puisque c'est la concentration de plusieurs métiers d'art qui fait tout l'intérêt de cette fabrication d'un objet sur un lieu bien circonscrit, on va dire, sur un territoire. Bien circonscrit. Il faut aussi souligner peut-être qu'au XVIIIe siècle, il n'était pas rare que des mouvements, par exemple genevois, soient expédiés en Angleterre ou inversement, pour être habillés sur place des boîtiers confectionnés par les monteurs de boîtes de l'un ou l'autre pays. On connaît par exemple ou d'autres associations de métiers. Vous connaissez peut-être le goût des marchés orientaux au XVIIIe siècle pour la production horlogère. Le marché turc, le marché chinois sont très friands de garde-temps, de montres émaillées et très richement décorées. Alors souvent, fabricant londonien peut faire appel à des artisans émailleurs genevois pour terminer un ouvrage qui sera expédié dans les marchés du Moyen-Orient.
Donc à cette époque, l'émailleur genevois était un petit peu le chinois d'aujourd'hui.
Alors je n'irai pas jusque-là, je pense que leur salaire était correctement évalué.
Alors la collection des frères Paul, les collections, il est mieux plutôt dire, puisque ce sont deux frères, elles se sont arrêtées trop tôt pour avoir des cadrans digitaux. À exposer. Et est-ce que les œuvres d'art actuelles, est-ce qu'on trouve des œuvres d'art, de l'horlogerie de luxe avec un affichage digital, ou est-ce que c'est encore réservé à l'analogique?
Non, il y a quelques productions contemporaines qui sont même assez significatives, avec des boîtes habillées de diamants et puis un affichage digital, par exemple, qui s'affirme en rouge vif sur un cadran et qui est entouré de diamants. Donc, je crois que le design au niveau de la production contemporaine reste très attaché à exploiter l'une ou l'autre des manières d'afficher le temps en digital ou en analogique.
C'est plutôt une question de perception. Le problème se trouve plutôt sur une perception du temps écoulé dont on prendrait moins conscience avec un affichage digital.
Ah, peut-être, oui. C'est vrai que la facilité de lecture nous rend peut-être ou banalise un petit peu ou efface un peu la prégnance de ce temps qui s'écoule, plutôt que de voir une aiguille qui avance sur un cadran.
Alors les pièces, donc on en a parlé tout à l'heure, elles étaient portées aussi bien autour du cou, elles pouvaient être mises peut-être dans la poche, enfin peut-être, puisque c'était également des objets qui sont faits pour être montrés.
Oui, c'est surtout ces objets du 18e siècle, début 19e siècle, qui sont des objets précieux, assimilés à des objets de parure, donc de véritables bijoux, qu'on exhibe sur soi, sur son costume. Donc j'ai évoqué la montre de col. La montre châtelaine est très significative de cette manière dont les femmes, notamment, portaient leur montre accrochée à une châtelaine, retenant tout un équipage. D'ailleurs, c'est le mot qu'on utilisait jusqu'au début du 19e siècle pour désigner ces châtelaines qui comportent non seulement la clé pour remonter la montre, mais un seau, un petit nécessaire même de couture ou à tout autre gadget, on dirait aujourd'hui, qui servait à montrer simplement la richesse, qui est un signe de prestige.
Alors, par exemple, la montre en forme de fruit était destinée, enfin qui semble être un objet très important avec plusieurs chaînes, était destinée à être portée autour du cou.
Voilà, comme pendentif. Et puis on dérive depuis, ou l'évolution, disons, fait transformer tout ce qui est pendentif ou montre châtelaine vers la montre broche, portée en broche par exemple. Et puis pour les messieurs, c'est vrai que la montre de col va rapidement rejoindre le gousset, donc le gilet que les hommes portaient, qui accueille la montre retenue à une chaîne, qui peut parfois être très riche et qui était une manière de souligner qu'on possédait une montre.
Ah, c'était la fonction de la chaîne de montrer qu'il y avait quelque chose au bout. Et même dans des métiers, enfin, pour illustrer d'autres capacités différentes, je pense à la montre en forme de viole de gambe, où là non plus, l'heure n'est pas visible mais surtout destinée peut-être à un musicien ou simplement pour affirmer un plaisir.
Exactement, donc c'est un petit objet de fantaisie qui rejoint l'anecdotique, on va dire, mais qui était fort prisé comme objet de décoration du vêtement et qui faisait le plaisir simplement, qui divertissait son propriétaire ou qui le montrait souvent avec intérêt à ses voisins de table, par exemple.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's that bright song. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, we'll be right back.
chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7 heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, will it take 9, 10, 11, 2? I'll be going strong, and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
C'était donc Rock Around the Clock de Bill Haley, un morceau de 1955. Estelle Fallé, puisque nous, comme dans l'exposition, nous avons fait un tour musical, puisque l'exposition, elle, va du 16e au 20e siècle.
Tout à fait. Un grand pas.
Alors, vous nous avez dit que le musée d'horlogerie réouvrirait bientôt.
Oui.
Quel est son but, hormis garder les pièces, comme vous dites, d'importance? Est-ce que vous... spécialisé dans l'horlogerie genevoise?
Alors oui, c'est un axe que nous allons continuer à privilégier, puisque c'est la vocation qu'a eu ce musée, qui est issu lui-même d'un patrimoine réuni par l'école d'horlogerie, par la Société des Arts, par le Conservatoire industriel, etc. Une accumulation de collections qui aboutit à cette importante collection d'objets dont nous sommes dépositaires aujourd'hui. Et c'est vrai que le musée, le futur musée ou le nouveau musée, comme je l'appelle, sera à la fois un musée rétrospectif, puisqu'il montrera tout ce qui s'est fait dans le passé, depuis ce 16e siècle que nous avons évoqué. Et il présentera donc des collections historiques réunies au fil du temps, grâce à des achats, grâce aux dons dont le musée a bénéficié. Et puis il sera aussi un musée prospectif, puisque nous allons réunir et mettre en valeur des collections contemporaine pour montrer que cet art de la mesure du temps persiste, perdure aujourd'hui à travers des créations et qui sont magistrales.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que pour des raisons purement genevoises, il n'y aurait donc pas les collections de montres érotiques. Est-ce qu'il y a plutôt, est-ce que vous avez autrement, dans d'autres sujets, des prédilections, qui soient soit de technique ou soit d'illustration?
Alors, c'est vrai que la collection va nous permettre, dans son ensemble, d'illustrer tous les métiers d'art qui étaient exercés dans la fabrique. Parce que la particularité de cette collection du musée public de Genève est qu'il possède, en fait, 3 collections conjointes. Il y a une collection de mesures d'horlogerie, donc de pendules et de montres, une collection de bijouterie qui est importante, et puis une collection d'émaillerie avec des miniatures sur émail, et puis tout l'art de l'émail appliqué à l'horlogerie. Donc on a une spécificité bien genevoise qui va nous permettre de tenir un discours sur l'ensemble des métiers d'art exercés dans la fabrique.
Alors, Estelle Fallé, rappelons que l'exposition « Joyaux de la mesure du temps », ce sont les montres du Munson Williams Proctor Art Institute, qui s'étend donc du 16e au 20e siècle. C'est une exposition qui, l'on peut voir au Musée d'Art et d'Histoire jusqu'au 14 mai 2006, enfin 2006 bien sûr, pardon. Et en même temps, donc, ces montres mises en regard avec des pièces de votre collection.
Une sélection de 30 montres issues de la collection, et donc quelques-unes, 5 exactement, sont tout à fait inédites, puisque jamais présentées au musée, du fait qu'elles sont des acquisitions récentes.
Alors, Estelle Fallé, merci.
Merci.
Vous avez écouté Cité Culture, que vous retrouverez demain. Demain, nous parlerons d'art plastique. Nous serons avec Marie Vélardi, qui expose actuellement au Centre d'édition contemporaine. Et pour parler de la fin de la semaine, mercredi, nous serons avec Laurent Fluch, le directeur du Musée Romain, pour parler de Bonjour Bacchus, un autre domaine. Jeudi, avec Naïma et Jean-Pierre Journeau, pour parler de la nouvelle exposition Le Corbusier au Musée Rat. Et vendredi, Lettre à Théo, une pièce qui est jouée au théâtre Le Poche. Vous avez maintenant rendez-vous avec Cité Culture. Nous vous souhaitons, avec Cité Jazz, nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Et Olivier Bibus a réalisé la technique.